Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Priscille Lafitte.
Raymond Boudon, vous figurez dans le dictionnaire des sciences humaines qui est paru aux presses universitaires de France en 2006. Un dictionnaire des sciences humaines qui dresse un panorama très large des sciences humaines, aussi bien des notions que des personnes. Donc vous y figurez, Raymond Boudon. On va faire l'exercice suivant. Je vais lire quelques extraits de cette notice. À vous de la commenter au besoin.
Bien, je vais essayer.
De l'analyse mathématique des faits sociaux à la relecture de Tocqueville aujourd'hui, l'œuvre sociologique de Raymond Boudon se manifeste par sa diversité d'objets, entre parenthèses, l'éducation, la mobilité sociale, le changement social, les idéologies, les connaissances et valeurs. Fin de la parenthèse.
Oui, ça c'est vrai, si je peux commenter. J'ai commencé par l'analyse mathématique parce que je pensais que, très très naïvement, que les mathématiques c'était le signe de la scientificité. Parce que j'ai toujours été obsédé par l'idée que la sociologie, les sciences sociales, pouvaient être aussi scientifiques que d'autres. Mais maintenant, j'ai gardé cette idée-là, mais je n'associerai plus ça à l'idée de mathématiques.
Donc vous avez une casquette de sociologue uniquement aujourd'hui. Mais également de démarches et de préoccupations relatives à ces objets. À la production d'un savoir empirique rigoureux, fonction élémentaire mais primordiale de la sociologie à ses yeux, Raymond Boudon associe fréquemment l'analyse théorique, méthodologique, voire épistémologique.
Oui, je crois que c'est important ça, parce qu'aujourd'hui la sociologie est souvent très très descriptive. Très très descriptive, et je ne crois pas qu'une science vraiment éclairante puisse se contenter d'être descriptive. Il faut toujours avoir un minimum de théorie qui permette de voir les choses de manière plus globale. C'est un petit peu comme voir la Terre depuis le ciel, on voit mieux certaines choses.
L'inégalité des chances, paru en 1973 et réédité en 2001.
Ça a été réédité, j'arrive même pas à compter le nombre d'éditions parce que ça a été réédité, ça a changé d'éditeur, ça a été réédité sous plusieurs formes, mais elle a été rééditée récemment et d'après ce que je vois, elle continue d'être utilisée dans les établissements d'enseignement.
On vous sollicite encore sur cet ouvrage.
Oui, j'en reçois des emails ces jours-ci, tous les jours.
Alors donc cette inégalité des chances est l'ouvrage clé à partir duquel il est possible d'établir la spécificité et la valeur de l'approche boudonienne des phénomènes sociaux. La question explicite de cet ouvrage, aujourd'hui classique, est celle de l'existence même d'un lien entre démocratisation du système scolaire et mobilité sociale.
Oui,
vous parliez de la carte scolaire.
Voilà, ça a fait un petit peu scandale à l'époque parce que j'avais expliqué que l'inégalité des chances scolaires était un problème fondamental pour les démocraties parce qu'autant on admet l'inégalité de résultats, autant on admet très mal l'inégalité des chances. Simplement, j'avais expliqué que l'inégalité que l'on constate, c'est un phénomène très très compliqué et que c'était pas très facile à corriger. Je donnais tout de même quelques voies de correction possibles, mais je ne crois pas que ça ait été vraiment suivi, on a fait plutôt l'inverse.
L'auteur montre que l'augmentation du taux de scolarisation ne peut entraîner un accroissement mécanique de la mobilité sociale qu'en cas d'ajustement étroit entre la structure des compétences offertes d'une part et la structure des emplois disponibles d'autre part. Or, l'offre globale de formation étant dans les sociétés démocratiques la conséquence de décisions individuelles formées indépendamment de toute planification institutionnelle, cette condition n'est que rarement, voire jamais, réalisée. Ce décalage explique l'inexistence d'effets mécaniques de l'éducation sur la mobilité sociale, Raymond Boudon.
Oui, on observe de grandes différences en matière d'inégalité des chances scolaires. Par exemple, il y avait une enquête qui montrait qu'il y avait beaucoup moins d'inégalités en Suisse qu'en France. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à l'époque de l'enquête auquel je fais référence, c'était le système scolaire lui-même qui décidait de manière purement méritocratique où les enfants devaient aller, à quel niveau. Les familles n'intervenaient pas du tout dans le système de décision et par conséquent, les motivations des familles, qui sont la source principale de l'inégalité des chances scolaires, étaient neutralisées. Alors, on a mis en œuvre une politique de non-différenciation croissante des établissements d'enseignement qui était exactement le contraire de ce qu'il fallait faire.
Donc, une question toujours très actuelle. Cette étude établit la centralité théorique du problème général de la relation entre les micro-phénomènes, des comportements, choix et décisions relevant des individus, Et les macro-phénomènes, la stratification sociale, par
oui,
exemple.
Oui, ça, c'est, je crois, c'est un point tout à fait essentiel.
C'est une idée
très simple à l'origine, c'est l'idée que tout phénomène social, quel qu'il soit, n'est que l'addition d'un certain nombre de comportements individuels. Alors, il ne s'agit pas de... d'individus qui sont des zombies enfermés dans une espèce de vide social. Pas du tout. Ils sont insérés dans un champ social. Mais si on veut expliquer un phénomène social, si on accepte l'idée qu'il est le résultat du comportement, des croyances des individus, à ce moment-là, un souci essentiel que doit avoir le sociologue, c'est d'expliquer correctement pourquoi les gens font ce qu'ils font, croient ce qu'ils croient, etc. Est-ce que c'est ce que font, je crois, les très grands, Tocqueville, Max Weber?
Alors, Raymond Boudon, vous convainquiez donc de l'importance d'une démarche décrivant les phénomènes sociaux comme le résultat de la composition d'un ensemble d'actions individuelles, ce dont vous venez de parler. Il s'agira dès lors pour vous, Raymond Boudon, d'expliciter toujours plus cette approche sociologique originale, en lui donnant la forme d'un paradigme, d'individualisme méthodologique, tout en testant continuellement les limites à travers l'extension de son domaine d'application. L'individualisme méthodologique de Raymond Boudon se structure principalement autour des concepts d'action, de raison et d'agrégation.
Oui, ça c'est un autre point qui vient s'ajouter à ce que nous disions tout à l'heure, c'est que expliquer le comportement de quelqu'un, dans la plupart des cas s'agissant des questions de sociologie, ça veut dire retrouver les raisons et les motivations vraisemblables qui poussent les gens à croire ce qu'ils croient ou à faire ce qu'ils... Et ça, on peut le faire. Si on ne pouvait pas le faire, toute vie sociale serait impossible. On passe son temps à déterminer les raisons pour lesquelles notre voisin a fait ce qu'il a fait. Enfin.
Alors, se réclamant de la tradition initiée par Max Weber, Raymond Boudon définit l'action comme un comportement doté d'intention, de préférence ou encore de structure de préférence. La tâche du sociologue consiste à analyser les origines et conséquences des actions individuelles, c'est-à-dire reconstituer les raisons qui s'y rapportent et interpréter l'émergence des phénomènes sociaux comme une fonction de leur juxtaposition.
Oui, ça je crois que c'est ce qu'ont fait les très grands sociologues. Quand par exemple Tocqueville se pose à un certain moment la question de savoir pourquoi l'agriculture française de la fin du XVIIIe siècle se développe moins rapidement que l'agriculture anglaise, eh bien il va chercher la causalité du côté des comportements des propriétaires fonciers, qui sont une classe très importante à l'époque, et il montre très bien qu'étant donné la structure du système politique, les propriétaires fonciers français avaient tendance à acheter une charge royale et à aller à Versailles, parce que ça leur apportait de l'influence, du pouvoir, etc. Tandis que les propriétaires fonciers anglais avaient intérêt, s'ils voulaient se faire élire à Westminster, ils avaient intérêt à apparaître comme des entrepreneurs dynamiques. Donc le contexte social faisait que les deux catégories sociales se sont comportées de manière très différente, et ça a donné le résultat global, très grand, très rapide développement d'un côté, développement moins rapide de l'autre.
Alors, je vais passer rapidement sur la suite de la notice. Se consacrant depuis l'idéologie en 1986 à l'étude des croyances collectives, Raymond Boudon critique l'asymétrie traditionnelle en sociologie qui consiste à expliquer des croyances valides par des raisons et des croyances fausses par des causes.
Oui, ça c'est une idée qui est simple et je crois de bon sens, mais qui est souvent refusée. Mais si on regarde l'histoire des sciences, selon le grand sociologue italien Pareto, c'est le cimetière de toutes ces idées auxquelles les scientifiques ont cru et qui sont maintenant considérées comme fausses. Personne, il ne viendra à l'idée de personne de considérer les croyances scientifiques auxquelles on ne croit plus maintenant comme irrationnelles. Non, les gens avaient à l'époque des raisons de croire à ce qu'ils croyaient. Ben, je crois que c'est une proposition qui peut être généralisée et que toutes les croyances s'expliquent par des raisons qui peuvent être parfois fausses, mais dont on peut comprendre que les gens y croient.
Ces bonnes raisons, selon l'expression retenue par vous, sont tout à la fois nécessaires au fonctionnement de la pensée, de validité étendue mais non universelle, de diffusion variable d'un groupe social à un autre.
Oui, je crois que c'est des idées qui sont très importantes pour expliquer les phénomènes sociaux essentiels que sont les croyances aux normes, aux valeurs, etc. Il ne faut pas se donner un individu qui soit passif, travaillé par des forces sociales, mais il faut se donner un individu qui ait des raisons de croire à ce qu'il croit, droit, qu'il y ait des motivations. Par exemple, Max Weber explique très bien que les paysans romains ne voulaient pas de la religion monothéiste parce qu'ils avaient l'impression que si le monde était gouverné par un dieu unique, il fallait que ce dieu ait une certaine cohérence, alors qu'ils constataient que la pluie était imprévisible, que le soleil était imprévisible. Ils considéraient que c'était incohérent avec l'idée d'un monde gouverné par un dieu unique. Tandis que les centurions et les fonctionnaires romains, qui eux obéissaient à une autorité centralisée, trouvaient qu'un dieu unique, c'était très bien, une représentation convenable du monde. Voilà un exemple où Max Weber explique de manière merveilleuse pourquoi vous avez des différences de croyances entre telle ou telle corporation.
Ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin de cette notice, l'article renvoie à d'autres notices qui sont les suivantes. Acteur, action, changement social, cognition, croyance collective, croyance individuelle, décision, école et égalité des chances, expliquer et comprendre, individualisme et holisme méthodologique, mobilité sociale, relativisme, et Max Weber.
Et Max Weber, oui, c'est un résumé des différents thèmes sur lesquels j'ai eu l'occasion d'écrire et qui ont une certaine cohérence les uns avec les autres.
Donc vous n'avez rien à redire ou à contester dans cette notice ?
Non, c'est une très bonne notice, c'est une très bonne notice, je crois très. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'il n'y a pas d'adjectif laudateur, il y a simplement des faits.
Effectivement, c'est donc le Dictionnaire des sciences humaines, paru au PUF en 2006 sous la direction de Sylvie Mesure et Patrick Savidan. Merci beaucoup Raymond Boudon d'être venu la commenter.
Merci à vous.